Bonjour Jacques Munier, ce matin nous faisons un point sur un conflit diplomatique qui oppose l'Égypte à l'Éthiopie depuis plus de 8 ans maintenant. C'est le conflit autour du grand barrage de la Renaissance en construction sur le Nil bleu à l'initiative de l'Éthiopie. L'Égypte dit depuis toujours que ce prochain plus grand barrage hydroélectrique d'Afrique va poser pour elle des problèmes d'approvisionnement. Le sujet a été évoqué notamment à Sotchi en marge du sommet Russie-Afrique. La Russie s'est proposée en médiatrice tout comme les États-Unis. Quant au président éthiopien Abiy Ahmed, pourtant tout juste nommé prix Nobel de la paix, il dit que son pays pourra, je cite, mobiliser des millions de jeunes en cas de conflit armé avec l'Égypte. Bonjour Franck Galland.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes chercheur associé à la FRS, la Fondation pour la Recherche Stratégique. Vous avez longtemps travaillé sur ce grand barrage de la Renaissance. Je précise aussi que, comme plusieurs chercheurs de think tank, vous avez d'autres activités. Vous dirigez un cabinet d'ingénieurs conseil dans le domaine de l'eau. Alors, ce grand barrage de la Renaissance, on peut commencer par un petit point topographique pour comprendre en quoi ce barrage inquiète les voisins du nord de l'Éthiopie. Il y a le Soudan qui a une frontière directe avec elle, mais surtout l'Égypte qui n'en a pas, mais les fleuves se jouent des frontières. Franck Galland.
Oui, ce fleuve prend sa source en territoire éthiopien, à proximité du lac Tana. Il traverse ce beau pays qu'est l'Éthiopie. Il a aussi une vocation, une histoire dans cette population encore à majorité chrétienne. Les chrétiens d'Éthiopie l'appellent Abbé. Et ce fleuve est nourricier, a une vocation particulièrement spirituelle, sauf que depuis des décennies, et je pense qu'on peut remonter au début du siècle dernier, en 1902, l'empereur Ménélik II, qui gouvernait l'Éthiopie, avait signé un traité avec la Grande-Bretagne, qui était la puissance tutélaire du Soudan et de l'Égypte, s'engageant à ne pas utiliser un mètre cube de ce fleuve à des fins d'hydraulique agricole. Et depuis ce temps, les Éthiopiens, effectivement, n'ont pas d'autorité sur ce fleuve. Et c'est bien le problème qui se développe aujourd'hui. La construction de ce barrage est à la fois très revendiquée par le peuple éthiopien, par le gouvernement éthiopien, mais est éminemment source d'inquiétude pour les pays de l'aval, Soudan et Éthiopie.
Parce qu'il faut dire que le Nil bleu, qui, comme vous le disiez, prend sa source sur les hauts plateaux d'Éthiopie, rejoint le Nil lors de sa confluence avec le Nil blanc à Khartoum au Soudan. Et en ça, quel barrage que ce soit construit sur le Nil bleu a un impact, une conséquence sur l'alimentation de l'Égypte sur le Nil, le débit du Nil.
Alors Hérodote disait que le Nil est un don de l'Égypte. 98% de la population égyptienne habite sur les rives du Nil. Et 95% de l'eau que vous consommez en Égypte est issue de ce fleuve. Donc à l'évidence, une construction de barrage côté Nil bleu sur le territoire éthiopien inquiète les populations avales et en particulier la population égyptienne.
L'Éthiopie, déjà, pourquoi est-ce qu'elle a mûri ce projet toute seule sans en aviser quiconque? Je crois d'ailleurs qu'elle n'a pas demandé un centime d'aide sur les 4 milliards de dollars que lui coûte le chantier. Qu'est-ce qu'elle en attend?
Alors, ce barrage dont la première pierre a été posée en pleine révolution égyptienne, la rue du Caire réclamait le départ du président Moubarak, et un 2 avril 2011, feu le premier ministre éthiopien Meles Zenawi pose cette première pierre en disant l'Éthiopie moderne, ce tigre africain avec une croissance à deux chiffres, qui est aujourd'hui un atelier de sous-traitance de la Chine, a besoin d'hydroélectricité, a besoin de capacité d'irrigation pour nourrir une population qui sera de 115 millions d'habitants à horizon 2030. Depuis plus d'un siècle, effectivement, l'Éthiopie n'a pas pu utiliser les eaux du Nil. L'intégralité, c'est 55,5 milliards de mètres cubes, va à l'Égypte et 18,5 milliards de mètres cubes vont au Soudan, mais rien pour l'Éthiopie. Donc il est clair que l'Éthiopie avait besoin de cet ouvrage qui sera, une fois terminé, la plus grande retenue d'eau d'Afrique et qui sera, en termes de capacité hydroélectrique, le 13e barrage du monde.
Elle doit permettre de générer 6000 mégawatts d'électricité, c'est l'équivalent de 6 petites centrales nucléaires pour sa consommation intérieure. Mais elle souhaite aussi en vendre de l'électricité.
C'est un projet fédérateur et l'Éthiopie a compris qu'il fallait faire partager cet ouvrage à l'ensemble de la région. Alors, c'est vrai que les tensions ont été excessivement vive depuis une quinzaine d'années. En juillet 2010, un grand connaisseur de la région, qui était professeur à la Kennedy School of Government à Harvard, le professeur Rothberg, qui présidait aussi la World Peace Organization, avait signé un papier dans l'Herald qui s'appelait « Water Fights », les combats pour l'eau. Et il appelait la communauté internationale à faire excessivement attention, puisque quelques mois plus tôt, les pays amont du Nil, Éthiopie en tête, avaient réclamé un nouveau partage du Nil blanc. On retrouvait par exemple le Kenya, on retrouvait l'Ouganda dans cet accord d'Entebbe, et le Nil bleu. Le gouvernement égyptien, en mai 2010, on avait encore le président Moubarak en poste, avait immédiatement réagi. J'étais au Caire à l'époque et je me souviens des titres de la presse Kairot, c'était « coup de poignard dans le dos ». Et puis arrive quelques mois plus tard, en avril 2011, alors qu'effectivement le président Moubarak est destitué, cette première pierre du barrage. Donc il est clair que les autorités égyptiennes profitent du chaos dans les rues du Caire, profitent des conséquences du printemps arabe pour accélérer...
Les autorités éthiopiennes.
Éthiopiennes, pour accélérer cette première pierre et le développement de ce barrage.
Évidemment, l'Égypte regarde ailleurs. Alors, où est-ce qu'on en est aujourd'hui des négociations? Elles se sont arrêtées un temps, notamment parce que au Soudan, les troubles politiques, la destitution d'Omar el-Béchir ont fait que les négociations sur ce barrage ont dû prendre une pause. Mais aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? Ça a repris il y a quelques semaines, parce qu'il faut dire que le barrage est quand même très avancé, mais que les négociations ont lieu après que le chantier a commencé, loin après. Donc est-ce que pour l'instant, l'Égypte et le Soudan s'y retrouvent?
Après cette phase d'instabilité consécutive au printemps arabe, alors on a eu une très très forte tension sous la présidence de Mohamed Morsi, président issu des Frères musulmans. Et moi, je me souviens d'un YouTube de 3-4 minutes, filmé visiblement à l'insu des protagonistes d'une réunion, qui ressemblait plutôt à une réunion du Conseil de sécurité nationale égyptien, et qui appelait à des représailles si l'Éthiopie continuait dans sa volonté de faire ce barrage. Alors, on parlait de faire donner l'Air Force égyptienne, on parlait d'alimenter des maquis pour pouvoir déstabiliser l'Éthiopie, etc., etc. Et puis arrive destitution du président Morsi, arrive le président Sisi, et un accord étonnamment conclu à Khartoum, accord du 23 mars 2015, où on voit Omar el-Béchir, main dans la main avec Sisi et main dans la main avec le premier ministre éthiopien, en disant « ce projet, nous avons compris qu'il était stratégique, non pas que pour l'Éthiopie, mais qu'il était stratégique pour la région, et donc nous décidons de coopérer ». Et c'est vrai que avec la disparition d'Omar el-Béchir, c'est-à-dire qu'il a quitté ses fonctions, et son exil, l'instabilité qu'a connue le Soudan, ces discussions consécutives aux études ont connu une pause. Alors elles reprennent et c'est tant mieux, parce que ce barrage, il est quasiment construit. On va pas tarder à le mettre en eau. Et le problème pour l'Égypte en aval, c'est la mise en eau de ce barrage. Parce que tant que le barrage, dont le génie civil n'est pas terminé, progresse, bon, c'est une source d'inquiétude. Mais la vraie inquiétude, c'est quand on va devoir mettre en eau effectivement la plus grande réserve d'eau douce d'Afrique.
Donc l'un des enjeux, c'est le temps que va prendre le fait de remplir un réservoir de 79 milliards de mètres cubes.
Alors, le temps que ça va prendre, mais surtout les conséquences sur le débit aval. Parce que comme je vous disais, 98% de la population égyptienne vit sur les rives de ce Nil, et 95% de l'eau consommée vient du Nil. Alors, la moindre réduction de débit, l'Égypte ne peut pas se le permettre. Aujourd'hui, il faut savoir que son agriculture est excessivement consommatrice d'eau. 90% de l'eau douce que vous avez dans ce pays est consommée par l'agriculture. Et l'agriculture égyptienne, je suis désolé de le dire, depuis 50 ans ne s'est pas réformée. C'est-à-dire consomme toujours, toujours, toujours plus d'eau pour nourrir 120 millions d'habitants à horizon 2030. Avec une vraie problématique, c'est qu'aujourd'hui, la moitié de la population égyptienne a moins de 25 ans. Qu'on a un taux de fécondité par femme de 3,7. Donc ces bouches, il va bien falloir les nourrir. Et pour ça, vous avez besoin d'eau.
Et qu'on sait notamment, et un chercheur de l'IRIS était venu nous le dire récemment dans les enjeux internationaux, que les épisodes de sécheresse, les problèmes d'irrigation conduisent...
Les conséquences du changement climatique.
Voilà, conduisent les agriculteurs, les ruraux vers les villes et augmentent les tensions. Donc aujourd'hui, vous êtes de ceux qui, comme l'International Crisis Group, disent que ce barrage de la Renaissance peut encore créer un conflit régional.
C'est un hotspot de la région, à l'évidence. Vous savez que quand Hillary Clinton était encore secrétaire d'État, elle avait commandé un rapport à la communauté nationale du renseignement américaine. Ce rapport, c'est Water Security Report, et il mettait clairement en question les conséquences de ce barrage sur la sécurité régionale. La seule solution aujourd'hui pour le président Sissi, qui vient d'être réélu, c'est d'investir massivement dans les infrastructures en eau pour compenser la baisse du débit du Nil qui va forcément arriver avec la mise en eau de ce barrage. Ça va être compensé par du dessalement. Alors, il a annoncé la plus grande station de dessalement de la région, 160 000 mètres cubes jour, c'est très bien, mais ça ne suffira pas. Il faut absolument qu'il réforme les pratiques de son agriculture, avec de l'irrigation intelligente, avec pourquoi pas de la recharge artificielle des nappes. En tout cas, faire rentrer l'agriculture égyptienne dans la modernité, c'est la seule solution de sortie de crise pour lui. Et il est devant un problème, le général de Gaulle disait, une éventualité qui se presse, et c'est exactement le challenge qui le sien aujourd'hui.
Merci Franck Galland d'avoir été avec nous. Merci ce matin. Le titre de votre dernier ouvrage, Le Grand Jeu, chronique géopolitique de l'eau et séché, CNRS édition. Merci à vous.